Les éditions du Seuil présentent « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Traduit de l'espagnol, Colombie, par Claude et Carmen Durand. Lu par François Berland. Pour Carmen et Alvaro Mutis. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanche, énorme comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineau qui répondait au nom de Melquiades fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient, le bois craqué à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melquiades. « Les choses ont une vie bien à elles !» clamait le gitan avec un accent guttural. « Il faut réveiller leur âme, toute la question est là !» José Arcadio Buendía, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l'or des entrailles de la terre. Melquiades, qui était un homme honnête, le mit en garde. « Ça ne sert pas à ça !» Mais José Arcadio Buendía, en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans, et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula Iguaran, sa femme, qui comptait sur ses animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. « Très vite, on aura plus d'or qu'il n'en faut pour paver toute la maison !» rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sans oublier le fond de la rivière, traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait employées Melquiades. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une armure du XVe siècle dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de cailloux. Quand José Arcadio Buendía et les quatre hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme. En mars revinrent les gitans. Cette fois, ils apportaient une lunette d'approche et une loupe de la dimension d'un tambour qu'ils exhibèrent comme la dernière découverte des Juifs d'Amsterdam. Ils firent asseoir une gitane à un bout du village et installèrent la longue-vue à l'entrée de la tente. Moyennant paiement de 5 réaux, les gens se plaçaient devant la lunette et pouvaient voir la gitane comme à portée de la main. « La science a supprimé les distances !» proclamait Melquiades. « D'ici peu, l'homme pourra voir ce qui se passe en n'importe quel endroit de la terre, sans même bouger de chez lui !» À midi, par une journée torride, ils se livrèrent à une surprenante démonstration à l'aide de l'énorme loupe. Ils disposèrent un tas d'herbes sèches au milieu de la rue et l'embrasèrent grâce à la concentration des rayons solaires. José Arcadio Buendía, qui n'était pas encore parvenu à se remettre de ses déboires avec les aimants, conçut l'idée d'utiliser cette invention comme arme de guerre. Melquiades, à nouveau, tenta de le dissuader. Mais il finit par accepter d'échanger la loupe contre les deux lingots aimantés et trois pièces de monnaie coloniale. Ursula pleura de consternation. Cet argent faisait partie d'un coffre de pièces d'or que son père avait accumulé tout au long d'une vie de privation et qu'elle avait enterré sous son lit en attendant une bonne occasion de les investir. José Arcadio Buendía n'essaya même pas de la consoler, entièrement absorbé par ses expériences tactiques, avec l'abnégation d'un chercheur et jusqu'au péril de sa propre vie. En voulant démontrer les effets de la loupe sur les troupes ennemies, il s'exposa lui-même à la concentration des rayons solaires et fut atteint de brûlures qui se transformèrent en ulcères et furent longues à guérir. Devant les récriminations de sa femme, alarmée par une si dangereuse inventivité, il faillit mettre le feu à la maison. Il passait de longues heures dans sa chambre à effectuer des calculs sur les possibilités stratégiques de cette arme révolutionnaire, tant et si bien qu'il finit par composer un traité d'une étourdissante clarté didactique et d'un pouvoir de conviction irrésistible. Il l'envoya aux autorités, accompagné de nombreux comptes rendus d'expérience et de plusieurs planches de croquis explicatifs, par l'intermédiaire d'un messager qui franchit la Sierra, s'égara dans de gigantesques marécages, remonta des cours d'eau tumultueux et faillit périr sous la patte des bêtes féroces, succomber au désespoir, mourir de la peste, avant de pouvoir faire route avec les mules du courrier. Bien que le voyage jusqu'à la capitale fût en ce temps-là presque impossible, José Arcadio Buendía se promettait de l'entreprendre dès que le gouvernement lui aurait fait signe, afin de se livrer à des démonstrations pratiques de son invention devant les responsables militaires et de les initier en personne aux méthodes complexes de la guerre solaire. Il attendit plusieurs années la réponse. Enfin, lassé d'attendre, il se plaignit à Melquiades de l'échec de son entreprise, et le gitan, en l'occurrence, donna une preuve éclatante de son honnêteté. Il lui restitua les doublons en échange de la loupe et lui laissa en outre quelques cartes portugaises et plusieurs instruments de navigation. Il écrivit de sa propre main un condensé très serré des études du moine Hermann afin qu'il pût se servir de l'astrolabe, de la boussole et du sextant. José Arcadio Buendía passa les longs mois de la saison des pluies cloîtré dans un cabinet qu'il aménagea au fin fond de la maison afin que personne ne vînt le déranger dans ses expériences. Ayant complètement délaissé les obligations domestiques, il passa des nuits entières dans la cour à surveiller le cheminement des astres, et il manqua d'attraper une insolation en voulant établir une méthode exacte pour repérer quand il était midi. Quand il se fut rompu à l'usage et au maniement de ses instruments, il acquit une certaine connaissance de l'espace qui lui permit de naviguer sur des mers inconnues, d'explorer des territoires vierges, de rencontrer des créatures extraordinaires, sans même avoir besoin de quitter son cabinet de travail. Ce fut vers cette époque qu'il prit l'habitude de parler tout seul, arpentant la maison sans prêter attention à personne, tandis qu'Ursula et les enfants courbaient l'échine dans le potager à faire pousser les bananes et la malanga, le manioc et l'igname, la citrouille et l'aubergine. Subitement, sans que rien ne lui laissait prévoir, son activité fébrile s'arrêta net et fit place à une manière de fascination. Pendant quelques jours, il fut comme possédé, se répétant à lui-même et à voix basse un chapelet de présomptions épouvantables, sans vouloir prêter foi à ce que lui dictait son propre entendement. Enfin, un mardi de décembre, à l'heure du déjeuner, il se libéra d'un coup de tout le poids de ses tourments. Les enfants devaient se rappeler toute leur vie avec quelle auguste solennité leur père prit place au haut bout de la table, tremblant de fièvre, ravagé par ses veilles prolongées et son imagination exacerbée, et leur révéla sa découverte. La terre est ronde comme une orange. Ursula perdit patience. « Si tu dois devenir fou, deviens-le tout seul !» s'écria-t-elle. « Mais n'essaie pas de mettre dans la tête des enfants tes idées de gitan !» José Arcadio Buendía, impassible, ne se laissa pas démonter par la colère de sa femme, qui, dans un accès de rage, brisa son astrolabe contre le sol. Il en construisit un autre, réunit dans son cabinet les hommes du village et leur démontra, s'appuyant sur des théories auxquelles nul ne comprenait rien, comment il était possible de revenir à son point de départ en naviguant sans cesse en direction de l'est. Tout le village était convaincu que José Arcadio Buendía avait perdu la raison. Quand survint Melquiades pour mettre les choses au point. Il exalta publiquement l'intelligence de cet homme qui, par pure spéculation astronomique, avait échafaudé une théorie déjà vérifiée en pratique, bien qu'ignorée encore à Macondo, et en témoignage d'admiration lui fit un présent qui devait avoir des répercussions décisives sur l'avenir du village. un laboratoire d'alchimie. Entre-temps, Melquiades avait vieilli avec une rapidité surprenante. Lors de ses premiers voyages, on lui eut donné le même âge que José Arcadio Buendía. Mais alors que ce dernier conservait cette énergie peu commune qui lui permettait de renverser un cheval rien qu'en le saisissant par les oreilles, le gitan paraissait miné par quelque mal tenace. C'était en fait les suites d'étranges et multiples maladies contractées au cours de ses innombrables périples autour du monde. Comme il le raconta lui-même à José Arcadio Buendía, tout en l'aidant à installer son laboratoire, la mort le suivait partout, flairant ses basques, mais sans se décider à lui mettre enfin le grappin dessus. Il avait échappé à tout ce que l'humanité avait subi de catastrophes et de fléaux. Il survécut à la pélagre en Perse, au scorbut dans l'archipel de la Sonde, à la lèpre en Alexandrie, au béribéri au Japon, à la peste bubonique à Madagascar, au tremblement de terre de Sicile et au naufrage d'une fourmilière humaine dans le détroit de Magellan. Cet être prodigieux, qui disait détenir les clés de Nostradamus, était un personnage lugubre, tout enveloppé de tristesse, avec un regard asiatique qui paraissait deviner la face cachée de toute chose. Il portait un grand chapeau noir, pareil aux ailes déployées d'un corbeau, et un gilet de velours tout patiné par le vert-de-gris des siècles. Mais malgré son immense savoir et le mystère qui l'entourait, il supportait le poids de l'humaine et terrestre condition qui le faisait s'empêtrer dans les minuscules problèmes de la vie quotidienne. Il se plaignait d'infirmité de vieillard, souffrait des moindres revers de fortune et avait cessé de rire depuis longtemps déjà, le scorbut lui ayant arraché toutes les dents. José Arcadio Buendía eut la certitude que ce jour, où à l'heure suffocante de midi il lui dévoila ses secrets, devait marquer le début d'une très grande amitié. Ses récits fantastiques lui valurent l'admiration béate des enfants. Aureliano, qui n'avait pas 5 ans à l'époque, devait se rappeler toute sa vie comme il l'aperçut cet après-midi-là, assis le dos tourné au miroitement métallique de la fenêtre, donnant accès de sa profonde voix d'orgue aux plus obscures contrées de l'imagination, tandis que ruisselaient sur ses tempes, à cause de la chaleur, des gouttes de graisse fondue. José Arcadio, son frère aîné, devait transmettre cette vision merveilleuse comme un souvenir héréditaire à toute sa descendance. Ursula, au contraire, conserva un bien mauvais souvenir de cette visite, car elle pénétra dans la chambre au moment même où, par mégarde, Melquiades brisa un flacon de bichlorure de mercure. « C'est l'odeur du démon !» fit-elle. « En aucune façon !» corrigea Melquiades. Il est prouvé que le démon a des propriétés sulfuriques, quand ceci n'est rien d'autre qu'un peu de sublimé. » Sur le même ton professoral, il se lança dans un savant exposé des vertus diaboliques du cinabre, mais Ursula passa outre et emmena les enfants prier. Cette odeur âcre devait rester à jamais dans sa mémoire, inséparable du souvenir de Melquiades. L'embryon de laboratoire comprenait, outre une grande profusion de récipients, entonnoirs, cornues, filtres et passoires, un athanor plutôt sommaire, une éprouvette en cristal au long col étroit, à l'image de l'œuf philosophique, et un distillateur fabriqué par les gitans eux-mêmes, d'après les descriptions modernes de l'alambic à 3 branches de Marie la Juive. En sus de tout cela, Melquiades laissa des échantillons des 7 métaux correspondant aux 7 planètes, les formules de Moïse et Zosime pour la multiplication de l'or, et une série de notes et de croquis relatifs aux propriétés du grand magistère qui permettaient à qui saurait les interpréter de se lancer dans la fabrication de la pierre philosophale. Séduit par la simplicité des formules de multiplication de l'or, José Arcadio Buendía fit du charme à Ursula pendant plusieurs semaines, afin qu'elle le laissât déterrer ses pièces coloniales et les multiplier autant de fois qu'il était possible de diviser le mercure. Comme toujours, devant l'entêtement inébranlable de son mari, Ursula céda. José Arcadio Buendía jeta alors 30 doublons dans une casserole et les fit fondre avec de la limaille de cuivre, de l'or piment, du soufre et du plomb. Il mit le tout à bouillir à feu vif dans un chaudron rempli d'huile de ricin, jusqu'à ce qu'il obtînt un épais sirop dégageant une odeur pestilentielle et faisant davantage penser au caramel vulgaire qu'à l'or magnifique. Par suite de distillations plutôt hasardeuses et finalement désastreuses, fondues avec les 7 métaux planétaires, travaillées avec le mercure hermétique et le vitriol de Chypre, et cuit à nouveau dans de la graisse de porc à défaut d'huile de réfort, le précieux héritage d'Ursula fut réduit à quelques graillons carbonisés qu'on ne parvint pas à détacher du fond du chaudron. Quand revinrent les gitans, Ursula avait dressé contre eux toute la population. Mais la curiosité fut plus forte que la peur, et cette fois, les gitans traversèrent le village en faisant un vacarme assourdissant sur toutes sortes d'instruments de musique. Cependant que le crieur public annonçait l'exhibition de la plus formidable découverte des gens de Naziance. De sorte que tout le monde s'achemina vers la tente et, en échange d'un centavo, put voir un Melchiades tout à fait rajeuni, remis d'aplomb, sans une ride, pourvu d'une denture toute neuve, éclatante. Ceux qui se rappelaient ses gencives rongées par le scorbut, ses joues flasques, ses lèvres flétries, frémirent à cette preuve évidente des pouvoirs surnaturels du gitan. L'effarement fit place à la panique quand Melchiades enleva ses dents, pourtant intactes et bien chaussées dans ses gencives, puis les montra rapidement au public, le temps d'un éclair pendant lequel il redevint l'homme décrépit des années passées, pour se les remettre et sourire à nouveau avec toute l'assurance de sa jeunesse retrouvée. José Arcadio Buendía lui-même jugea que la science de Melchiades, cette fois, avait passé les limites extrêmes de ce qui était permis. Mais il se trouva tout réconforté et ravi quand le gitan, dès qu'ils furent seuls, lui eut expliqué le mécanisme de sa fausse denture. Cela lui parut à la fois si simple et si prodigieux que du jour au lendemain, il se désintéressa complètement des recherches de l'alchimie. Il traversa une nouvelle crise de dépression, perdit l'appétit et passa ses journées à aller et venir dans la maison. « Il se produit dans le monde des choses extraordinaires, » disait-il à Ursula. Pas plus loin que l'autre côté de la rivière, on trouve toutes sortes d'appareils magiques, tandis que nous autres continuons à vivre comme les ânes. » Ceux qui le connaissaient depuis l'époque de la fondation de Macondo étaient étonnés du changement qui s'était opéré en lui sous l'influence de Melchiades. Au début, José Arcadio Buendía était une sorte de jeune patriarche qui donnait des directives pour les semailles, des conseils pour élever les enfants et les animaux, et collaborait avec chacun, jusque dans les travaux manuels, pour la bonne marche de la communauté. Comme depuis le premier jour, sa maison était la plus belle du village, on fit les autres à son image. Elle avait une salle commune, spacieuse et bien éclairée, une salle à manger en terrasse avec des fleurs de couleur gaie, deux chambres, un patio où croissait un châtaignier géant, un jardin bien cultivé et un enclos où cohabitaient paisiblement les chèvres, les porcs et les poules. Les seuls animaux interdits, non seulement à la maison, mais dans tout le village, étaient les coqs de combat. Dans son domaine, Ursula abattait autant de besognes que son mari dans le sien. Active, méticuleuse, en tout sérieuse, cette femme au nerf solide que personne à aucun moment de sa vie ne put entendre fredonner un air, semblait partout présente, du petit matin jusqu'à une heure avancée de la nuit, toujours accompagnée du doux bruissement de ses jupes garnies de volants. Par ses soins, le sol de terre battue, les murs de boue séchée qu'on n'avait pas blanchis à la chaux, les meubles rustiques qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes demeuraient toujours propres, et les vieux coffres où l'on gardait le linge dégageaient une bonne odeur de basilic. Jamais on ne trouverait au village homme plus entreprenant que José Arcadio Buendía. Il avait réglé la disposition des maisons de telle manière que de n'importe laquelle on eut accès à la rivière, et put se ravitailler en eau sans avoir à fournir plus d'efforts que le voisin. Et il traça les rues avec tant de soin et de bon sens qu'aucune maison ne recevait plus de soleil qu'une autre aux heures de grosse chaleur. En quelques années, Macondo devint le mieux administré, le plus laborieux de tous les villages au-dessus de 300 habitants connus jusqu'alors. En vérité, c'était un village heureux. Nul n'avait plus de 30 ans. Personne n'y était jamais mort. Depuis l'époque de sa fondation, José Arcadio Buendía avait construit des pièges et des cages, et en peu de temps, il remplit de troupiales, de canaris, de mésanges bleus et de rouges-gorges, non seulement sa propre maison, mais toute celle du village. Le concert de tant d'oiseaux d'hiver s'avéra si étourdissant qu'Ursula se boucha les oreilles avec de la cire d'abeille pour ne pas perdre le sens des réalités. La première fois que la tribu de Melchiades s'en vint à Macondo pour vendre des boules de verre contre la migraine, tout le monde s'étonna qu'ils eussent trouvé le chemin du village, perdu dans la léthargie du marigot, mais les gitans avouèrent qu'ils s'étaient orientés grâce au chant des oiseaux.